Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Nous allons parler de l'actualité scientifique. Nous, parce que je ne suis pas seul, je m'appelle Jean-Noël et Carole est encore ici. Bienvenue Carole.
Bonjour Jean-Noël, merci.
Eh bien, merci de ta présence pour nous apporter un peu une touche de glamour, j'ai envie de le dire.
Merci.
Et de sérieux, bien évidemment.
Je prends les compliments.
On se souvient de cette émission de la semaine dernière où nous avions fait quand même un point assez complet sur la situation du coronavirus. Là, on va partir un petit peu dans les étoiles.
Oui, tout à fait.
Ah, tant mieux. Nous sommes le 8 février. Mon Dieu, déjà le 8 février. Et alors, c'est intéressant. C'est la journée mondiale sans téléphone portable. Donc je vais te demander, Carole...
Alors qu'on vient justement de...
Okay. Oui, sans téléphone portable. Sauf pour écouter Graphite, bien évidemment. Parce que je rappelle que vous pouvez nous suivre également sur vos smartphones en téléchargeant des applications genre TuneIn, par exemple, sur l'Apple Store. Et vous nous suivez aussi sur graphite.net. Donc là, dans cette situation, vous avez la possibilité de pouvoir conserver votre téléphone portable. Sinon, eh bien, le 8 février, c'est la journée mondiale sans téléphone portable. En 1865, Gregor Mendel ou Mandel, je ne sais jamais, je ne me rappelle plus, pourtant on a fait de la génétique, c'est lui qui expose à la Société d'Histoire Naturelle de Brunn ses recherches sur les hybrides végétaux, les fameux maïs. Tu te souviens de ça, si tu as fait de la
oui,
génétique
bien sûr,
c'était
bien sûr.
Mandel
ou Mendel. La prononciation exacte, je crois que nous, on disait Mendel.
Il me semble que ça devait être Gregor Mendel, effectivement. Oui. C'était en 1865. Au niveau de l'éphémérie de la naissance de Daniel Bernoulli, médecin, physicien, mathématicien suisse. Il est donc né le 8 février 1700 et il a étudié la médecine à Bâle, à Heidelberg, à Strasbourg. Il a pas mal voyagé. Ils seront même à Venise pour poursuivre sa formation. Il cultive à la fois les sciences mathématiques et les sciences naturelles. Il enseigne les mathématiques, l'anatomie, la botanique et la physique. Vous savez, c'est un peu l'époque au XVIIIe siècle où les scientifiques touchaient à tout. Et là, c'est un très bon exemple, celui de Daniel Bernoulli. Il est l'ami de Léonard Euler. Alors, Euler, pour ceux qui ont fait des mathématiques, ça leur dit aussi quelque chose. Ça nous rappelle des grands souvenirs, tout ça.
Qu'on a peut-être oublié aussi. Mais...
Je pense aussi. Et il travaille donc avec Euler dans plusieurs domaines des mathématiques et de la physique. Et il partage avec lui 10 fois le prix annuel de l'Académie des sciences de Paris. Si bien que ça lui fait une sorte de revenu. Il a bien compris le système, mais aussi il était assez fort dans ce domaine-là. Les différents problèmes qu'il tente de résoudre, à savoir la théorie de l'élasticité et le mécanisme des marées, bien tout ça le conduit à s'intéresser à développer des outils mathématiques comme par exemple les équations différentielles. C'est grâce à lui...
Génial qu'on fait ça donc au lycée et qu'on peut avoir les équadifs au bac.
Eh bien, c'est ça, c'est Daniel Bernoulli. Et les séries également. Et je me rappelle même plus ce que c'est que les séries en mathématiques, mais en tout cas, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Daniel Bernoulli, né le 8 février, et une personne qui est décédée le 8 février, nous sommes là au XXe siècle, le 8 février 1979, c'est la mort de Denis Gabor, ingénieur et physicien hongrois. Il est connu notamment pour l'invention de l'holographie, pour lequel il a reçu le prix Nobel de physique en 1971. Là, on était au XXe siècle avec Denis Gabor. C'était l'éphéméride de ce 8 février. On va retrouver également dans cette émission Anne Fleur, avec la rubrique InnoCity. Anne Fleur choisit une ville et elle nous fait découvrir justement les grandes inventions qui sont nées dans cette ville-là. Et je pense qu'on va aller dans un endroit où il fait un petit peu froid et c'est fort dommage, parce qu'on aurait besoin un petit peu de chaleur. Et je pense que Fleur, elle nous a encore choisi une ville un petit peu au nord. On verra ça dans le cours de cette émission. Et on va partir, non pas au nord, mais peut-être encore beaucoup plus haut, Carole.
Tout à fait, Jean-Noël. Puisque moi, je vais parler d'espace et de Mars, puisqu'on en parle souvent dans l'émission, la planète rouge fait pas mal l'actu, mais là, en 2020, elle va le faire de multiples façons, puisque les puissances mondiales partent à l'assaut de la planète rouge avec différentes missions qui sont prévues sur Mars. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, donc le moment, la fréquence en fait, où la Terre et Mars sont disposées dans la configuration idéale pour que le voyage depuis la première vers la seconde se fasse en dépensant un minimum d'énergie et de temps. Et ça, c'est tous les 26 mois. Donc, forcément, les différentes missions qui sont programmées essayent de tabler sur cette fenêtre. Et là, ce sera donc normalement en juillet 2020. Que cette fenêtre de tir va s'ouvrir de nouveau pour une poignée de semaines. Alors si tout va bien, ce ne sont pas moins de 4 missions qui en profiteront pour décoller vers la planète rouge. Tout d'abord la mission américaine Mars 2020, la mission européano-russe ExoMars, la mission chinoise Ruoxing 1, HX1 si on veut peut-être le diminutif, et la mission Hope lancée par les Émirats Arabes Unis à bord d'une fusée japonaise. Donc on voit que voilà, le monde entier est à pied d'œuvre pour rejoindre Mars. Alors, il y a de nombreuses raisons pour qu'il y ait cette ruée vers Mars, tout ce que les scientifiques veulent apprendre, aussi tout ce que les puissances veulent montrer en termes de conquête de l'espace. Ce n'est pas que scientifique, hein, y a toujours un aspect un peu politique derrière. Et donc, j'ai choisi en fait de faire un focus plus précisément sur la NASA, qui va envoyer, donc, si tout va bien, avec la mission Mars 2020, un nouveau rover donc, sur Mars. Pour pas seulement débusquer d'éventuelles traces de vie passée, mais aussi comme une mission précurseur à peut-être une mission humaine sur Mars. On en parle dans l'émission depuis longtemps.
Avant même qu'ils aient eu l'idée, je pense d'ailleurs.
C'est ça, et surtout de tout ce qui est envisagé, de tous les tests qui sont faits, etc. Donc il y a quelques jours, enfin plutôt maintenant quelques semaines, Mars 2020 a effectué avec succès ses premiers tours de roue dans la grande salle stérile du JPL, le Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, près de Los Angeles. Et en fait, c'est dans cette salle que tous les prédécesseurs ont obtenu le permis de conduire sur Mars. C'est la grande salle de test. La fenêtre de lancement donc pour la planète rouge, elle ouvre entre le 17 juillet et le 5 août 2020 pour une arrivée dans le cratère G0, je ne suis pas sûre de le prononcer correctement, le 18 février 2021. Ça met quand même un certain temps, pas tout à fait un an, mais
Oui,
voilà.
Bien sûr. Alors autant on ne sera pas nécessairement à l'antenne pendant cet été, autant on pourra l'être éventuellement
dans un an,
si on est encore à l'antenne.
Tout à fait. Donc Matt Wallace, qui est responsable adjoint de la mission Mars 2020, a résumé à l'AFP que ce rover donc, est conçu pour chercher des signes de vie. Donc il emporte un grand nombre d'instruments différents qui vont nous aider à comprendre le contexte géologique et chimique à la surface de Mars et aussi collecter des échantillons dans le but de pouvoir un jour les rapporter sur Terre. Oui, parce qu'évidemment, le fait de rapporter des échantillons n'est pas simple aussi. Alors parmi tous ces équipements à ce rover, eh bien, il y a une kyrielle de capteurs, pas moins de 23 caméras, pour la plupart haute définition et en couleur, et deux oreilles qui lui permettront d'écouter les vents martiens. Et il y a aussi ce qu'ils appellent le ZAP, c'est-à-dire des lasers permettant d'agir comme des analyseurs chimiques. Alors, il sera de la taille d'une voiture, 3 mètres de long pour 2,70 mètres de large, et il est doté de 6 roues, comme son prédécesseur, donc Curiosity, dont on avait parlé, pour lui permettre de passer les rochers. Mais par contre, voilà, il n'est pas fait pour aller très très vite. Il n'y aura pas de course sur Mars, on n'en est pas encore là. Et il n'y a pas besoin, parce qu'il est prévu qu'il parcourt en moyenne que 200 mètres par jour martien. Mais ce qui, à mon avis, vu la surface de Mars, peut-être être beaucoup. En tout cas, c'est sûrement déjà pas mal pour pouvoir envoyer de nombreuses informations sur Terre. Alors, il est équipé d'un mini-réacteur nucléaire pour lui fournir son énergie. Et il dispose d'un bras articulé long de 2,20 m et d'une foreuse pour pulvériser des échantillons de roches prélevés dans des endroits qu'il aura identifiés comme propices à certaines formes de vie et molécules organiques. Alors, Matt Wallace explique, nous cherchons une vie microbienne ancienne, voici des milliards d'années, à une époque où la planète Mars ressemblait beaucoup plus à la Terre, avec de l'eau liquide en surface, une atmosphère et un champ magnétique protégeant des rayons cosmiques, donc autant de conditions compatibles avec certaines formes de vie unicellulaire. On voit bien quel est l'objectif derrière. Une fois prélevé, l'échantillon sera transféré à l'intérieur du rover pour être hermétiquement scellé dans un tube qui sera rejeté en attendant qu'une future mission martienne en prenne livraison. Alors, c'est un tout nouveau mécanisme, explique donc Steve Barajas, qui est ingénieur, qu'ils ont conçu, installé sur ce rover, probablement le plus complexe jamais envoyé dans l'espace. Ils espèrent aller très vite, puisqu'ils visent un lancement en 2026 pour la prochaine mission qui irait sur Mars pour prendre les échantillons, les placerait dans une fusée qui se mettrait en orbite autour de Mars. c'est assez ambitieux. C'est-à-dire que déjà, on prélève, mais il va falloir quand même réacheminer les échantillons. Alors, ceux-ci auraient alors rendez-vous avec un orbiteur qui les rapporterait sur Terre. Et donc, les scientifiques disent qu'ils pourraient avoir comme ça des échantillons en main pour les analyser d'ici une décennie. C'est que ça paraît quand même long en termes de temps humain, à l'échelle humaine, mais ça n'est rien à cette échelle.
C'est rien du tout. Non, mais il faut bien qu'on comprenne et qu'on réalise qu'on va avoir une décennie extraordinaire au niveau de l'espace.
Exactement, oui, oui.
On s'ennuyait pendant un certain temps, mais là, c'est reparti.
Là, c'est reparti de plus belle. Et pour optimiser les chances de débusquer d'éventuelles traces de vie, évidemment, la mission ne se pose pas au hasard sur ce fameux cratère G0. Ce site, choisi après des années de débats scientifiques, il fut un lac de 500 mètres de profondeur ouvrant sur un réseau de rivières il y a à peu près 3,5 à 3,9 milliards d'années. Voilà, c'est pour ça qu'on pense retrouver ces fameuses traces de vie anciennes. Mais la mission Mars 2020, elle est aussi tournée vers le futur. Et Matt Wallace insiste vraiment là-dessus. Je vois ça comme le précurseur d'une mission humaine sur Mars. Nous avons un équipement qui va nous permettre de fabriquer de l'oxygène à partir du CO2 de Mars, à la fois pour les besoins d'une éventuelle présence humaine, mais aussi pour faire l'agent oxydant d'un carburant nous permettant de quitter Mars pour le voyage retour. Alors la mission, elle testera aussi les performances d'un drone hélicoptère pour voir s'il est possible de voler ainsi dans l'atmosphère de Mars, qui est beaucoup plus ténue que celle de la Terre. Donc Mars 2020, cette mission, elle doit travailler durant au moins une année martienne, soit l'équivalent de 2 ans sur Terre. Mais les rovers ont souvent largement dépassé leurs espérances de vie, comme donc Curiosity, posé en 2012 et toujours en activité sur les flancs du mont Sharp, au centre du cratère Gale. Il va falloir que je révise un peu ma géographie martienne, parce que je me rends compte que je ne sais pas vraiment où se situent ces cratères-là les uns par rapport aux autres. Il y a des noms qui sont familiers, mais je vais réviser. Et pour la petite anecdote, ce fameux rover, il y a jusqu'à quelques semaines, il était possible en fait de proposer un nom. C'est-à-dire que tout le monde pouvait proposer sur Internet un nom. Et normalement, les résultats vont être annoncés. Normalement, c'était février pour les résultats. Donc,
On va suivre l'actualité. On va voir ça. Alors là, on est sur une échelle de quelques années, mais ça, on va le vivre. Ce qui est intéressant, c'est que bon, là, on est encore sur des rovers qu'on envoie et qu'on va essayer de récupérer des choses. Mais toujours Mars, qui fait l'actualité, bien sûr. Il y a quelques jours, c'était mi-janvier, le fameux Elon Musk. On en parle
toujours. On en parle toujours.
Si on parle de Mars, on parle de lui. Il a surpris un petit peu en dévoilant dans une série de tweets sa stratégie pour coloniser Mars, et en fait, il dévoile un calendrier pour peupler Mars avec 1 million d'humains d'ici 2050. Et là aussi, il faut vraiment être totalement conscient que 2050, c'est rien. C'est-à-dire que c'est dans 30 ans. Il y a 30 ans, on était en 1990. On voit très bien que c'est rien du tout, 30
c'est
ans.
Rien. Non.
Et là, son idée, en fait, c'est de faire de l'humanité une espèce interplanétaire. C'est pas une lubie chez lui, c'est, dit-il, le but de sa vie. Il a toujours dit que c'était la raison pour laquelle il avait fondé SpaceX en 2002, donc il y a déjà 18 ans.
Oui, oui.
Et pourquoi il s'est enrichi. Et pour comprendre son raisonnement, en fait, il faut savoir qu'il craint que l'humanité s'apprête à vivre des jours sombres, voire à disparaître du fait de l'avènement de l'intelligence artificielle et des robots de plus en plus intelligents. Et concernant Mars, son but est d'établir une colonie martienne pour préserver l'humanité qui, dans un premier temps, dépendrait de la Terre pour survivre. Et puis, au fil des années, eh bien, cette colonie martienne deviendrait autonome et finirait vraisemblablement par faire sécession. Ce n'est plus de la science-fiction. En fait, c'est assez intéressant. Et donc, pour transporter tout ça, Musk compte donc utiliser Starship. On en parle très souvent. Ce futur système de transport spatial à tout faire de son entreprise SpaceX, qui est actuellement en cours de développement. Et donc, dans sa version habitée, ce véhicule sera capable de transporter une centaine de passagers à destination de Mars ou même peut-être des fois dans des horizons encore plus lointains. Et il y aurait donc la possibilité de pouvoir également transporter 100 tonnes de charge utile qui pourraient être envoyées en orbite puis à destination de Mars. Si bien que, évidemment, un seul véhicule ne va pas suffire. Si on veut peupler Mars d'1 million d'habitants, eh bien, il faudra 1000 Starships oui. qui vont être nécessaires. Ils seront construits au rythme d'une centaine chaque année pendant 10 ans.
Ce qui paraît énorme. Quand
et
même.
Chaque véhicule aura une durée de vie de 20 à 30 ans. Et donc, 1000 de ces véhicules devraient-on être en service assez rapidement d'ici la fin de cette décennie. Bref, selon les plans d'Elon Musk, pour quitter la Terre, rejoindre Mars, l'enjeu est de lancer tous les Starship alors en service à destination de Mars lors des fenêtres de tir qui s'ouvrent tous les 24 ou 26 mois, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller quand on veut. On est obligé d'avoir des fenêtres de tir assez exiguës et qui sont assez espacées. Mais quand la fenêtre est ouverte, à mon avis, là ça va y aller. Et en fait, cette fenêtre de tir, c'est quand Mars et la Terre sont au plus près. Donc ça ne se fait pas toujours comme ça. Sans surprise, je vais éternuer. Je vais y arriver, pardon.
C'est la magie de l'hiver, il y a des aléas comme ça.
Sans surprise, cet exercice un petit peu de prospective, ça va bien sûr susciter un débat entre les partisans, les fans même d'Elon Musk et ses détracteurs. Certains vont pointer un petit peu l'extravagance du personnage. Oui, effectivement, il est extravagant. D'autres vont expliquer que le projet d'envoyer des hommes sur Mars ne peut être que le résultat d'une collaboration internationale. Oui, effectivement, ça ne va pas se faire comme ça, mais comme tu l'as dit, Carole, on voit qu'il y a quand même déjà plusieurs pays qui sont lancés dans cette course-là et il nous paraît un peu très difficile pour une entreprise d'y parvenir seule parce qu'effectivement, il a beau avoir l'argent, il a beau avoir l'ambition, il va falloir qu'il soit aidé. Mais en tout cas, on va vivre des années extraordinaires. Il promet, Elon Musk, 1 million de personnes sur Mars en 2050. On peut souhaiter, considérer qu'on sera encore vivant, qu'on pourra peut-être le voir.
Oui, tout à fait.
On n'ira pas. Je ne pense pas que nous deux, on soit totalement
aptes et valides. On sera dans nos fauteuils roulants et on regardera ça à la télé. Ce ne sera peut-être plus des télés, là, ce sera, vous imaginez, quelque chose de plus, quelque chose en réalité augmentée qui sera intégré.
Si ton EHPAD est équipé de cette réalité augmentée, je te rappelle, Carole.
Il le sera.
Mais voilà.
Je commence à mettre de côté dès aujourd'hui.
Oui, parce que si tu veux voir l'arrivée d'un million de personnes sur Mars, ça va être fascinant et extraordinaire.
Et en même temps, je crois que même si j'étais en 2050 un peu plus jeune, je suis pas sûre d'avoir envie d'aller vivre sur Mars dans les conditions qui seront quand même les conditions. Bon, alors 1 million de personnes, c'est qu'on imagine des conditions à peu près correctes, mais ça, on pourra pas vivre au grand air. Il n'y aura pas de nature luxuriante. Ah, ça risque d'être un peu voilà.
Il va falloir faire un vrai choix pour partir là-bas parce qu'on n'y va pas en week-end.
Non.
Je pense que c'est ça, il va falloir, à mon avis, d'un point de vue psychologique, avoir un suivi assez, assez précis pour suivre les personnes qui vont partir là-bas. Ça va être une colonie isolée.
Tout à fait.
Mais comme tu l'as dit, je ne sais plus combien de temps il faut aller là, plusieurs mois pour aller là-bas, évidemment.
Non, mais après, c'est même moi, je m'interroge surtout sur les conditions de vie sur le long terme. Parce qu'en fait, qu'on solutionne des choses sur le court terme, mais sur le long terme.
On est en train de réfléchir, ne serait-ce qu'à comment on peut produire l'oxygène, des choses comme ça, de base. Oui. Là, on ne se pose pas la question sur Terre. On l'a là-bas, après. Donc oui, il y a eu quelques expériences pour essayer aussi de produire peut-être des végétaux, de la nourriture là-bas, mais selon quelles conditions. Enfin, c'est hyper compliqué, sauf que depuis quelques années, pas beaucoup, il y a plein de projets sur cet aspect-là. Si vous aviez vu ce film Seul sur Mars, je ne sais plus comment
oui,
ça s'appelle ce film.
Oui, j'ai vu, bien sûr.
Voilà, et bien c'est...
C'est en partie ce qui m'a donné envie de ne pas y aller. J'ai adoré le film, mais ça pose la question... Voilà.
Ce sera exactement ça, en fait. C'est tout l'intérêt de ce film. C'est que, bon, des fois, d'un point de vue scientifique, il y avait peut-être des approximations, mais le fond était vraiment intéressant parce qu'on est en train de coloniser quelque chose. On colonise un caillou. Donc, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'eau. Comment on fait ? Donc, il faut emmener tout. Alors oui, on nous dit 100 tonnes de charge utile. Mais enfin, c'est rien, 100 tonnes.
Tout à fait.
Donc, voilà. C'est assez intéressant parce qu'on voit que depuis quelques semaines, ça bouge énormément. Et maintenant qu'on change de décennie, maintenant, ça vient de plus en plus proche. Et donc, on suivra cet été.
C'est le lancement, tout à fait, le départ.
Ça va être fascinant. Qu'est-ce qu'on va s'amuser. Il y en a un qui part dans l'espace aussi, parce que lui, ça lui plaît.
Tout à fait. Ce serait à nouveau Thomas Pesquet. risqué, qu'on a énormément suivi, dont on a parlé, qui même, je crois, est potentiellement invité dans l'émission, c'est ça?
Mais Thomas, si tu nous écoutes, appelle-nous et viens. Je rêverais de l'interviewer, parce qu'il y retourne alors. Mais qu'est-ce qu'il va faire?
C'est pour l'instant, c'est le, on va dire, le suite à une interview, enfin en tout cas une table ronde plutôt, qui s'est tenue au mois de janvier. C'était sur l'espace et c'était organisé par la Commission des Affaires étrangères, présidée par Marielle de Sarnez, où du coup on a appris que l'astronaute Thomas Pesquet devrait repartir pour une deuxième mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc en plus, voilà, pas n'importe quelle mission, à l'été 2021 et pour une durée de 6 mois. Donc pareil, c'est quand même pas une petite mission. Et il a annoncé ça donc en janvier devant les députés. Ce vol de longue durée, eh bien, ce sera dans ce cas-là le deuxième pour l'astronaute français qui avait donc effectué une première mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc c'était de novembre 2016 à juin 2017. J'avais pas l'impression que c'était il y a aussi longtemps.
Ah
mais
bon, ça fait 2 ans et demi qu'il est revenu.
Voilà,
il n'est toujours pas passé par le studio de graphite, dis donc.
Faut qu'on renouvelle nos invitations donc avant qu'il reparte à l'été 2021, ça nous laisse le temps.
D'accord, oui, ça nous laisse le temps.
Mais par contre, on se souvient bien que quand il était revenu, il avait martelé, parce que je pense que pour eux aussi, en tant qu'astronaute, il y a toute une com à faire. Il avait martelé qu'il voulait repartir, que c'était son objectif. Moi, je me souviens vraiment, il l'avait dit à la radio, enfin partout, à la télé. Oui, parce que pour lui, de toute façon, je pense qu'une fois qu'on a le virus et qu'on a réussi à aller à ce niveau et à faire ce type de mission, c'est comme une drogue. Je pense que c'est très très difficile de dire non, là je vais faire quelques petites recherches en laboratoire.
Non, puis avec la femme qu'il a, à mon avis, il a envie de repartir.
Ah, je ne sais pas, je n'ai pas, je n'ai pas mes informations closer, je les ai laissées. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, parce qu'on ne sait pas grand-chose, hein, mais en quelques mots, il devrait s'envoler donc de Cap Canaveral en Floride et non de Baïkonour comme la dernière fois, et sans doute à bord d'une capsule de SpaceX ou de Boeing. C'est ce qu'il a précisé pour l'instant. Ce vol de longue durée, donc, qui sera son deuxième, eh bien, lui, ce qu'il dit, c'est on va y travailler très très fort, ça devrait bien marcher. On espère, parce que si ça ne marche pas, je crois que c'est compliqué. Hein. Alors évidemment, les mauvaises langues ou les gens qui ont un peu envie de titiller Thomas Pesquet l'ont interrogé sur le coût de l'ISS et il a répondu que l'exploration humaine n'était pas forcément très chère. Alors il a dit, ce sont des budgets importants, je vous l'accorde, mais il ne faut pas s'interroger de préparer le futur. Le but numéro un de ces missions, c'est la recherche. On utilise les propriétés de l'environnement spatial pour avoir accès à des choses qui sont cachées sur Terre, dans le domaine médical notamment. Et c'est vrai que moi, je me souviens bien, pour avoir vu plusieurs reportages sur ce qu'il avait fait à bord de l'ISS, de toutes les recherches qui sont menées, notamment sur les plantes, etc., dans ces conditions assez particulières. Et oui, ça fait avancer la recherche, ça fait avancer la compréhension qu'on a donc en science, et ça reste important maintenant. Non, c'est sûr que quand on regarde des budgets pour l'espace, évidemment, c'est des sommes tellement astronomiques. Peut-être pas si chères que ça, pour ce que
astronomique
c'est.
Astronomique est le mot juste, d'ailleurs. Bravo, Carole.
C'est venu. En plus, ce n'était pas du tout calculé, mais quel... Oui. C'était quel pour talent. Ça qu'on dit ça. Alors, il développe en disant qu'en fait, à bord de l'ISS, ce qui se passe, c'est la préparation de la suite de l'exploration spatiale. Il dit qu'en fait, cette station, ce n'est pas un but en soi, c'est une étape sur la route de l'exploration spatiale. Et vu ce qu'on vient de dire avant, oui, il a tout à fait raison.
Chers auditeurs, tout est combiné,
tout est préparé.
Transitions, voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, il va travailler sur ce qu'on va développer après sur Mars, en
exactement,
clair.
Oui, tout à fait. Et puis, ou sur peut-être d'autres missions. On reparle pas mal de la
missions.
Lune.
Oui,
il y avait des moments, j'ai vu passer sur Internet des articles qui disaient « Thomas Pesquet sur la Lune, va-t-il marcher sur la Lune ?» Bon, apparemment, pas tout de suite, mais il y avait des choses comme ça aussi qui étaient envisagées. Alors, d'un point de vue un peu politique, au regard justement du contexte géopolitique actuel, un député lui a aussi demandé si l'ISS n'était pas un peu la fin de l'histoire, qu'il y avait un petit côté bisounours de la station. Alors, c'est vrai que, comme Thomas Pesquet a dit, on a l'impression que dans le monde de l'ISS, tout va bien, tout est beau et qu'ailleurs, c'est un peu difficile. Mais le grand avantage de ces opérations-là, c'est qu'elles sont à long terme et qu'elles sont peut-être plus durables que les cycles de tension et d'apaisement, donc de tension internationale. Donc je trouve ça une belle réponse, mais oui, évidemment, on peut imaginer que là, on fait collaborer des gens qui viennent de puissances qui, des fois, ne s'entendent pas sur certains points, mais qu'au sein de l'ISS, eh bien, il n'y a pas le choix. De toute façon, là, il faut que tout se passe bien. Et je pense qu'il y a une grande, grande solidarité entre astronautes.
Oui, puis la science n'a pas de frontières dans ce cas précis, c'est tout l'intérêt, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresserait de parler, alors, à la fois à Thomas Pesquet de ses recherches, mais de, c'est lui concrètement, je regardais là, à l'instant, là, pendant que tu parlais, il va avoir 42 ans à la fin du mois.
Ah, je ne savais pas exactement, oui, d'accord.
Parce que je me rappelle, il fait des... pas si jeune que ça, hein. J'ai à peu près le même âge, donc je sais de ce que c'est. 42 ans, le corps, il faut quand même, il morfle, parce qu'on se souvient de ces articles qu'on avait évoqués, de ces expériences qui ont été menées sur les astronautes qui reviennent sur Terre après un séjour de plusieurs mois sur la Station Spatiale Internationale, et notamment de cette expérience qui avait été menée sur deux jumeaux, l'un qui était dans l'espace et l'autre qui était resté sur Terre, et on a vu que le corps morfle, enfin c'est pas
tout
anodin.
Et d'ailleurs, ils essayent de le prévenir quand ils sont dans, notamment l'ISS, part donc du sport, parce qu'en effet, entre autres, il n'y a pas que ça, mais il y a une perte de masse musculaire, il y a aussi d'autres choses.
C'est dangereux, il ne faut pas croire que c'est une partie de plaisir.
Alors tout à fait.
Et il a envie d'y retourner. Oui. C'est vraiment que sa femme est détestable, ce n'est pas possible.
Je ne sais pas, je vais vérifier pour la prochaine fois. Non, alors après, ce qui était intéressant, parce que je me souviens très bien de l'équipe avec laquelle il était à bord de l'ISS, et il y avait notamment une femme, je ne suis plus sûre...
Ben voilà, pour ça qu'il veut retourner.
Elle, qui était assez âgée. Alors, je vais chercher son nom et son âge. Oui, et justement, en fait, je pense que déjà, pour faire ce qu'ils font, il faut avoir fait tellement d'études, il faut avoir fait tellement d'exercices. Il faut aussi, entre guillemets, après gagner sa place. Et là, ça dépend de plein de choses. Donc déjà, je pense qu'il faut quand même un certain temps et qu'on ne part pas à 22 ans. Il faudrait regarder l'âge moyen des astronautes. Mais
c'est la trentaine.
Et comme après, ils acquièrent aussi une expérience de par leur mission, de par ce qu'ils ont fait et qu'elle est précieuse. Pour certains, ils font d'autres voyages. Et je me souviens vraiment de cette scientifique. Je me demande s'il n'était pas russe. Je vais aller vérifier. Russe ou américaine. Et qui était quand même... je ne sais pas, mais pas loin des 60 ans peut-être.
Ah bon sang. Ah ben écoute, je te propose, on va écouter un petit titre comme ça, ça me fait une petite pause musicale, et tu nous retrouves
tout
le nom
fait,
et l'âge
regarder.
De cette spationaute, de cette cosmonaute du coup, alors pour les Russes.
Je ne sais pas.
On ne sait jamais. On va regarder ça, amis auditeurs, vous êtes bien sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis, entre 12h et 13h, on écoute un titre et on revient après avec la mamie de l'espace.
Leave.
Graphite 94.9 FM, également à l'écoute sur graphite.net.
Et c'était The Worst in Me de Théo Laurence. Désolé, j'ai l'impression qu'il y avait uniquement une bande sur deux qui fonctionnait pour la diffusion de ce CD. J'espère que vous avez pu apprécier, mais ça a l'air d'être sympa. Mais effectivement, je crois qu'il y a eu un petit problème technique qu'on va essayer de résoudre. Ce qui nous a permis, on n'a pas pu résoudre ce petit problème technique pendant Théo Laurence, pardon, mais on en sait un petit peu plus, alors, parce que là, du coup, tu as mis le monde entier en haleine en disant mais qui est le nom de cette dame et quel âge elle avait quand elle était quand elle est partie dans l'espace avec Thomas.
Donc en fait, il s'agit de Peggy Whitson, donc elle est américaine et donc elle a 59 ans. Elle est d'ailleurs née le même jour que quelqu'un de très connu, puisqu'elle est née un 9 février d'ailleurs.
Donc c'est son anniversaire demain alors.
Et oui, donc donc elle va avoir 60 ans demain.
Elle va avoir 60 ans demain, donc il y a 2 ans et demi, elle était... Ah oui, donc elle avait 57
elle
ans.
Elle avait 56-57 quand elle avait fait la mission à bord de l'ISS.
Oh,
et
elle a une santé extraordinaire.
Elle avait déjà fait bien sûr d'autres missions, hein, quand on voit son CV c'est assez impressionnant, puisqu'à un moment, donc c'est ce que je disais, elle a établi un nouveau record de séjours cumulés dans l'espace au sein du corps des astronautes de la NASA, qui était égal à 665 jours.
665 jours, ça fait presque 2 ans en fait, cumulés dans l'espace.
Donc en fait, Thomas Pesquet, il a encore de la marge.
Oui, il a encore de la marge.
Voilà.
Non, mais c'est quand même assez. Je sais pas comment je serai à 57 ans, mais je me vois déjà. Enfin, je vois déjà mon âge, comment je peine sur Terre. Je m'imagine 6 mois
mais
dans l'espace.
Mais la pesanteur est plus légère.
Oui, par contre, pour ça, ça doit être très sympathique à la rigueur.
On se sent plus. Voilà, non. Non, mais même, je pense que de toute façon, le type d'entraînement qu'ils doivent subir tout au long de leur vie, le mental qu'elle doit avoir, enfin, tout ça combiné, ce sont des athlètes, des scientifiques hors pair. Donc.
Ça, c'est des gens totalement extraordinaires au sens propre du terme. D'ailleurs.
Tout à fait, oui.
Enfin, j'aimerais bien la rencontrer.
Ah ben après Thomas, on peut peut-être essayer de l'interviewer.
Mais Thomas, il a qu'à l'emmener. Donc Peggy, je ne sais pas comment. Alors, ce n'est pas notre Peggy à nous, notre Peggy, notre animatrice.
Et non.
Mais voilà, c'est une autre Peggy. Ok, et ben écoute, c'est noté. Merci Carole pour l'information, parce qu'au moins, on en sait un peu plus et on lance un appel à Thomas si tu nous écoutes. On va rester aux États-Unis avec l'armée américaine qui a cette idée assez intéressante que nous allons évoquer. On va parler de la reconnaissance faciale. On en a parlé dans cette émission il n'y a pas longtemps, l'utilisation de la reconnaissance faciale qui fait l'objet de polémiques en France avec la volonté du gouvernement de l'expérimenter sur les images de vidéosurveillance. On en a parlé, je crois, il y a un mois sur cette antenne. Et bien du côté des militaires, son utilisation, la reconnaissance faciale est courante, notamment sur les terrains de guerre. Et bien l'armée américaine vient d'investir dans le développement d'une technologie de reconnaissance faciale qui fonctionnera de nuit
dans le noir,
et
donc, oui.
Sur des longues distances. C'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que plutôt d'exploiter des caméras classiques, ce seront des capteurs infrarouges qui vont être utilisés. Ils sont de petite taille et en relevant les différences de température du visage, eh bien les capteurs permettront aux algorithmes de reconstituer et d'identifier l'individu. C'est totalement génial. Enfin, techniquement, c'est extraordinaire.
Oui, techniquement. Après, éthiquement...
Ah, mais tu sais bien, Carole, dans cette émission, c'est toujours la grande question. Techniquement, c'est extraordinaire. C'est-à-dire maintenant, on va pouvoir reconstituer un visage avec des capteurs qui vont capter la température. Enfin, c'est assez intéressant. Après, qu'est-ce qu'on va faire l'utilisation de tout ça? C'est toute la question. Le procédé sera diaboliquement efficace, hein, nous dit-on. J'adore ce terme. Puisqu'il devra fonctionner donc aussi bien de jour comme de nuit, et même au travers d'un pare-brise ou même à travers du brouillard. Et plus impressionnant, ce système sera donc aussi capable d'identifier les individus jusqu'à une distance de 500 mètres. Ces exigences sont celles qui correspondent au cahier des charges du département de la Défense américain, et les résultats déjà obtenus s'approchent de ces critères. 2 sociétés travaillent sur cette technologie pour la mer américaine et l'une des deux développe une technologie qui affine les images infrarouges pour qu'elles soient plus détaillées. Elle détient également un brevet sur la reconnaissance faciale infrarouge et l'autre entreprise, qui est un petit peu plus discrète sur ses activités, elle détient aussi un brevet sur l'affinage des détails des images relevées par les caméras thermiques. Alors plus généralement pour l'armée américaine, la reconnaissance faciale représente une priorité. Les investissements qui sont consacré sont massifs, tellement massifs qu'on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Les travaux de recherche sur le sujet sont chapeautés par l'agence de défense américaine, et notamment sur son département biométrique. Tu m'étonnes, parce que derrière, il y a évidemment toute la partie biométrique à prendre en considération. Et selon le directeur de ce laboratoire, la reconnaissance faciale permet aux militaires de décider plus rapidement et avec certitude, s'il est nécessaire, bien sûr, d'éliminer une cible. Effectivement, techniquement, c'est génial. La finalité, on a bien compris à quoi ça servait, oui, bien sûr. C'est évident. Mais là encore, voir qu'on peut faire la reconnaissance faciale dans le brouillard, la nuit, et à 500 mètres de distance... oui, maintenant, ça augure de choses... ça va être des guerres un petit peu plus expéditives maintenant. Je n'aurais plus besoin d'avoir un contact direct.
Tout à fait. Déjà, on le voit avec les suppressions de certains chefs ou personnes importantes qui sont faites avec des drones.
Bien sûr.
C'est dans la continuité.
Mais c'est exactement ça, faut pas se leurrer. Mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir où on en est, la technologie, surtout pour une fois qu'on sait un petit peu ce qui se développe au sein de l'armée américaine, qui n'est pas non plus très loquace.
Tout à fait, c'est normal.
On va revenir en Europe du Nord, normalement, si j'ai bien noté les instructions que tu m'as confiées, Anne-Fleur. Anne-Fleur, c'est à toi pour InnoCity.
Good morning Compiègne, bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver et merci à toi Jean-Noël de me laisser vous raconter et vous amener plutôt en voyage autour du monde chaque semaine pour parler d'innovation et d'invention des quatre coins du monde. Alors aujourd'hui je vous amène où ? J'ai retrouvé un petit peu ma voix, vous noterez, mais je vous amène toujours pas dans un endroit très très ensoleillé puisqu'il s'agit un petit peu, je dirais... presque de l'Angleterre. Pourquoi je dis que c'est l'Angleterre ? Je sais que c'est pas ça, la région Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, mais c'est une région très, très, très pluvieuse. Alors, Seattle, c'est connu pour quoi ? Seattle, c'est connu pour être le siège d'Amazon, de Microsoft aussi. Donc, on a quand même un bon terrain d'innovation. C'est aussi connu comme le siège de Starbucks, donc la fameuse chaîne de café. Mais aujourd'hui, je vais quand même essayer de vous surprendre un petit peu avec des inventions que j'espère vous ne connaissiez pas. La première invention dont je vais vous parler, on la doit à un certain David Giuliani, aucun lien a priori avec l'ancien maire de New York, qui est très occupé actuellement avec l'impeachment de Trump. David Giuliani, donc, il aurait créé la brosse à dents Sonicare en 1992. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette brosse à dents Sonicare ? C'est que c'est la toute première brosse à dents qui est donc alimenté par des vibrations soniques. Et alors, en fait, c'est assez fantastique parce que du coup, ça en fait une brosse à dents électrique très, très, très silencieuse, mais très efficace également. Voilà. Alors, maintenant qu'on a lavé nos dents, on va pouvoir parler un petit peu de choses sérieuses puisque les Américains, ils ont quand même une gastronomie qui est aussi intéressante. Et alors, sachez-le, la machine à fabriquer les donuts. Les donuts, donc ces fameux petits gâteaux qui sont en forme de cercle avec un trou à l'intérieur, qu'on voit souvent d'ailleurs dans les Simpsons. Eh bien, ces donuts, la machine à fabriquer les donuts, elle date de 1923 et on la doit en fait à différents ingénieurs qui étaient dans les Marines, donc dans l'armée américaine. Et donc, c'était des frères, Thomas et Walter Belshaw. Et c'est eux donc qui ont inventé cette toute première machine à faire des donuts à Seattle, donc au nord-ouest des États-Unis. Leur entreprise, d'ailleurs, existe toujours aujourd'hui. Donc c'est génial. Elle va avoir 100 ans là, dans quelques années. Et l'entreprise s'appelle donc la Belshaw Adamatic. Et c'est clairement, donc ils ont quand même réussi à garder leur monopole et leur avance, c'est le plus gros équipementier en termes de fabrication de donuts au monde. Si on revient un petit peu plus sur un sujet sérieux, quoique les donuts c'est quand même très très sérieux, la troisième invention dont je vais vous parler, il s'agit du téléphone sans fil en 1962. Et oui, couper le fil, littéralement, ça a été vraiment quelque chose qui a occupé les esprits pendant... des décennies et qui est devenue une réalité donc à Seattle. La l'entreprise donc Pacific Northwest Bell, qui est un petit peu comme France Télécom en fait, donc France Télécom à l'époque où France Télécom existait, c'est donc un peu l'équivalent de France Télécom du nord-ouest des États-Unis. Ils ont inventé en fait une forme de téléphone sans fil qui pouvait qui a été mise en fait à disposition du restaurant rotatif que l'on trouve en haut de la Space Needle. La Space Needle, c'est cette tour qui a une architecture, une forme assez particulière que l'on voit souvent dans les films. Alors pour ceux qui regardent Grey's Anatomy par exemple, vous le voyez souvent dans la skyline de la ville. Et donc en fait, tout en haut de cette tour, il y a un restaurant qui tourne. Et c'est là qu'on a introduit pour la toute première fois le téléphone sans fil. Et en fait, c'était ça, c'était un petit peu une grande campagne de pub. Donc les gens qui venaient dîner avaient, donc à l'époque on cherchait pas à déconnecter, au contraire on cherchait à connecter les gens, et donc ils avaient un téléphone à leur table qui était connecté avec un transmetteur radio et qui pouvait donc du coup les connecter à un opérateur qui pouvait ensuite composer le numéro de leur choix. Voilà, donc 1962, le téléphone sans fil au cœur de Seattle. Et alors pour finir, à peine quelques années plus tard, c'est un certain James Russell que l'on doit l'invention des CD. CD qui veut dire compact disc. Donc en 1965, Monsieur James Russell a une idée en fait qui était ok, on va développer une alternative au vinyle et on va essayer en fait d'imaginer un dispositif qui permettrait d'enregistrer et de rejouer des sons sans avoir à toucher le disque, comme c'est sur le vinyle, on doit poser le lecteur directement sur le disque. Il a déposé son brevet et en fait c'est Philips et Sony qui ont acheté des droits de licence sur ce brevet très 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 rapidement et qui ont pu ainsi, donc c'est eux en fait après par contre qui ont mis sur le marché les CD dans les années 1980. Mais voilà, l'invention vraiment du tout premier CD, c'est de 1965 et ça remonte à Seattle. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit tour des inventions de cette très très belle région de Seattle dans l'état de Washington aux États-Unis. J'espère que la balade vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à les ressortir en soirée, ça fait toujours très très classe. Si vous avez des suggestions sur, d'autres villes dont vous auriez aimé connaître les inventions, n'hésitez pas à m'écrire ou à le dire directement à Jean-Noël, il me transmettra le message. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne fin d'émission, et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne Fleur, soigne-toi parce que tu me fais payer. Alors on n'était pas du tout en Europe, on est resté aux États-Unis en fait.
Exactement. Ah, mais exactement, oui. Est-ce que je peux parler quand même? Merci, merci.
Tu sais que je rêverais dans la vie d'avoir un bouton qui permettrait d'éteindre la voix de certains.
Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement.
Nous étions à Seattle, bien sûr. Anne Fleur, excuse-moi, j'ai confondu. Je n'avais pas les bonnes notes. Mais en tout cas, on a appris plein de choses. Alors, c'est vrai que CD, on ne se rappelle plus que ça veut dire compact disque, en fait. Alors que dans les années 90, tout début des années 90, oui, on savait ce que ça voulait dire, mais donc...
un problème. Non, mais heureusement nous ne sommes pas filmés dans le studio, donc on ne voit pas. Non mais je me prépare pour la suite.
Je vois des choses dans ce studio totalement impensables. Vous nous écoutez sur l'antenne de Graphite, sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, et bien sûr sur la bande FM 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, vous permet de vous tenir de l'actualité scientifique heureuse, moins heureuse ou en tout cas assez prophétique dans ce cas-là.
Oui, j'aime beaucoup ce genre de sujet. Donc là, c'est pour ça. On va revenir sur des choses un peu sérieuses, un petit peu solennelles. Dans un premier temps, je voulais faire un peu un point sur le nombre d'êtres humains sur notre planète. Parce qu'on parle de Mars, on parle de coloniser Mars, etc. Eh bien, il va y avoir, en tout cas, je pense, des volontaires, je ne sais pas, mais en tout cas, suffisamment de monde pour le faire, puisque Les scientifiques le disent, hein, à moins d'une catastrophe sans précédent, nous serons 9,7 milliards en 2050. On parlait de 2050 tout à l'heure. 9,7 milliards.
C'est dans 30 ans.
Oui, 9,7 milliards. Rien. On nous parlait, je me souviens, avant des 7 milliards comme un espèce d'apocalypse, etc. Bon, ben là, 9,7.
Ça va.
Qui dit mieux ? Non, mais c'est un peu. Oui, ça va finalement.
Mais on va mettre ces gens où ?
Sur Mars, apparemment, me dit Elon Musk dans l'oreillette.
Non, mais c'est ça qui est prévu. Il y a un vrai problème.
Alors. Je me souviens, c'était déjà il y a quelques temps, de scientifiques en fait qui expliquaient que si les ressources étaient réparties plus équitablement au sein de la planète, on avait assez de nourriture hein, finalement pour que tout le monde puisse manger à sa faim si on était 7 milliards. En fait, c'était simplement le fait que ce soit extrêmement mal réparti.
Oui.
Mais qu'en fait, 7 milliards ne posait pas tellement de problèmes. Alors, pour 9,7, je ne sais pas. Hein, il faudra que je m'actualise. Mais en fait, dans l'hypothèse centrale donc des plus récentes projections, la population mondiale devra augmenter de 2 milliards d'ici à 2050. Donc, c'est bien ça. On est à peu près à 7 et quelques. Et on passerait à donc 9, enfin, presque 10, en fait, 9,7. Et donc, oui, parce qu'en 2019, le chiffre exact, c'est 7,7 milliards. Et on atteindrait apparemment un maximum, alors un maximum, est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas aller au-dessus, de 10,9 milliards peu après 2100. Ça, c'est ce que nous rapporte Henri Léridon de l'INED. Pour qu'il y ait un autre schéma, on va dire, prévisionnel, hein, il faudrait que des générations entières renoncent à se reproduire, aucune catastrophe d'une ampleur inimaginable s'abatte sur l'humanité pour que, justement, la population mondiale n'atteigne pas ce chiffre. Et ça, c'est d'après un rapport basé sur les calculs des Nations Unies. Donc, sauf à envisager des catastrophes justement hein, d'une ampleur qu'on n'a jamais rencontrée à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que même quand on parle du coronavirus ou qu'on parle d'épidémie mondialisée, ça ne suffirait pas. Hein. La population donc dépasserait probablement les 9 milliards d'individus. Leur prévision, en fait, elle se base sur une baisse supplémentaire de la fécondité. Donc, pourtant, hein, elle se base sur cette baisse-là. Et elles évaluent donc la future population à 9,7 milliards. Alors, Henri Léridon, expert de l'INED, dans une parution Population et Société, explique que le risque d'explosion de la population est derrière nous. On se rappelle, il a eu lieu bah, notamment en Chine, en fait de 2% dans les années 1960. L'augmentation de la population, elle se ralentit progressivement et elle est aujourd'hui tombée à 1%. Pour autant, cet accroissement est plus que substantiel et c'est pour ça que les prévisions bisannuelles des Nations Unies, eh bien, en fonction des tendances de la mortalité, de la fécondité et des migrations, liées aussi à des facteurs tels que, on peut les citer, les pratiques contraceptives, les progrès en matière de santé, des hypothèses donc basses, centrales et hautes ont été définies à partir de tout ça. Et c'est ce qui nous donne une projection à 9,7 milliards en 2050 et à 10,9 milliards peu après 2100. Donc après, il y a tout un détail en fait de quelle population aurait le plus des baisses de natalité. Enfin, ils ont un petit peu regardé ça partout dans le monde. Il y a moyen de trouver ces informations donc sur Internet. Mais c'est vrai qu'on peut, dans un premier temps, se demander très bien, on fait ces projections-là, dans quelles conditions nous vivrons à 9,7 milliards sur Terre.
Eh bien, à mon avis, je pense pas que je serai là pour voir ça. Je laisserai ma place.
En 2050, on a dit qu'on regardait la colonisation. Donc, on sera là dans l'EHPAD.
Oui, on sera là en 2050 en EHPAD. Oui, c'est vrai. Ben, on sera tous dans les EHPAD. À savoir. Pour le moment, la forme et le côté pratique des premiers smartphones pliables, des vêtements connectés, tout ça est impacté par une contrainte, c'est celle des batteries. Eh oui, parce que les batteries, c'est aussi un secteur de recherche d'avenir. Il y a pas mal de choses qui se font sur les batteries. Et le problème, en tout cas, dans le cas des smartphones pliables et des vêtements connectés, c'est que les batteries sont rigides. Eh bien, pour régler cette entrave, il y a une société en Corée du Sud, elle s'appelle Genax, et elle a mis au point la G-Flex. C'est une batterie ultra mince, flexible et rechargeable. C'est génial, c'est extraordinaire. Vous pouvez voir des images sur Internet. C'est quelque chose d'une espèce de circuit imprimé très, très, très fin et très malléable. Cela a donc permis d'introduire cette batterie dans des configurations qui étaient impossibles auparavant. La Giflex, elle a montré ses capacités lors du fameux Consumer Electronics Show de Las Vegas. On en parlait la semaine dernière, mais il y a encore plein de choses qui ont été... À la rigueur, c'était autant la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant qui avait été présenté à Las Vegas, autant là, c'est assez prometteur, parce que cette batterie flexible, eh bien, c'est quand même compliqué, il faut modifier l'ensemble des composants, et eh bien, cette entreprise du Corée du Sud, elle conserve jalousement son savoir-faire, et se contente d'expliquer que sa Giflex repose sur une combinaison de matériaux, d'électrolytes polymères, d'oxyde de lithium et de cobalt. Mais alors comment on mélange tout ça pour avoir une batterie qui soit à la fois ultra mince, flexible et rechargeable? On n'en sait rien. Le secret est bien gardé et ils ont bien raison. L'épaisseur de la batterie peut être abaissée à 0,5 mm, donc c'est vraiment très fin, pour une taille qui sera étendue selon la capacité voulue. La batterie dispose d'une tension à peu près de 4 volts, ce qui pour un vêtement connecté ou pour un téléphone portable est quand même pas mal. Selon la taille, la capacité de la batterie varie de jusqu'à 5 ampères heure, ce qui est pas non plus négligeable. Et comme pour tous les fabricants de batteries souples, eh bien la principale difficulté reste de concevoir des batteries qui ne craignent pas l'explosion lors des torsions. Et pour éviter justement que l'électrolyte vienne engendrer la surchauffe et l'explosion de la batterie, ce qui serait quand même assez gênant si on a ça dans nos vêtements, eh bien l'entreprise Gelax a développé une espèce d'électrolyte sous forme de gel semi-solide. Et donc l'idée, c'est que ça va pouvoir absorber les chocs et il n'y aura pas de risque d'explosion ou de cassure. Mais voilà, ça a été présenté pour ces batteries souples, pliables, pour les vêtements connectés. Et on voit très bien que c'est un domaine assez intéressant qui a été dévoilé pour une fois de façon intéressante à Las Vegas par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Pour terminer cette émission, Carole, on va malheureusement terminer peut-être sur une note pas nécessairement gay. Si, je crois que tu nous emmenais...
Pas nécessairement, mais on va parler d'animaux, parce que tu me l'avais demandé la semaine dernière. Mais,
oui, effectivement,
un petit peu d'animaux. Et tu sais que c'est mon sujet de prédilection.
Je sais bien,
en tant qu'ancienne éthologue.
Sauf que là, ça ne va pas être...
Alors non, puisque j'avais
envie... Fais un petit point.
Voilà, j'avais envie d'aborder les incendies et surtout les conséquences des incendies en fait en Australie, puisque on se pose une grande question donc sur la faune de ce pays qui a été très très durement touchée ces dernières semaines. Alors le calcul à l'heure actuelle, et c'est dans un article proposé par Science et Avenir qui date du mois de janvier, eh bien c'est que plus d'un milliard d'animaux auraient péri dans les incendies qui touchent depuis plus de 4 mois l'Australie. Alors certains scientifiques font grimper cette estimation au chiffre étourdissant d'un million de milliards. C'est difficile, je trouve, de se rendre compte de ce que ça peut représenter. Mais en tout cas, ça nous permet de nous interroger sur la façon dont la faune sauvage du pays, qui était quand même vraiment un joyau de la biodiversité dans le monde, eh bien, comment elle émergera de ce drame. Alors Jean-Noël et nos auditeurs, vous l'avez certainement vu, les images sont revenues en boucle sur les réseaux sociaux. Alors là, j'aime bien, il y a un petit passage dramatique, mais non, très triste quand c'est vrai, on regarde un peu ces photos. Moi, personnellement, j'ai arrêté. On y voit donc des koalas hagards, les pattes en sang, la fourrure brûlée, des kangourous entièrement calcinés, pris au piège dans des fils barbelés. Celle-là, elle a vraiment beaucoup fait le tour des réseaux. Des wombats ou des opossums qui sont récupérés donc dans des couvertures par des habitants ou des secouristes. Il y a également d'autres animaux dont on ne peut pas voir de photos, comme les chauves-souris, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens ou les insectes, qui sont des piliers de la biodiversité et qui, bien sûr, n'apparaissent pas sur les clichés, mais qui n'en restent pas moins des victimes silencieuses des incendies donc, qui ont ravagé l'Australie. Alors en fait, c'est depuis septembre 2019, environ 80 000 km² de brousse et de zones boisées sont partis en fumée sur cette île continent. Il y a des feux de brousse tous les ans, mais là, ils ont pris une ampleur qui n'avait jamais eu lieu. C'est l'équivalent en fait de la superficie de l'Irlande ou de deux fois celle de la Suisse. Je trouve quand même que c'est vertigineux. Les Échos, le quotidien, ont calculé que si les incendies avaient lieu en France, cela correspondrait à la totalité de la région Nouvelle-Aquitaine.
Ah oui,
moi qui viens de cette région, je me rends bien compte. Donc très bien. Dans un pays alors où le taux d'extinction des mammifères était déjà le plus élevé du monde, eh bien, ce sont des dizaines d'espèces peuplant ces régions ravagées, toutes classes confondues, que l'on pourrait voir tout simplement soudainement disparaître. C'est pas il en restera, mais peut-être vraiment disparaître. Et ça va impacter sérieusement les populations d'espèces, et en particulier celles restreintes à de petites aires de répartition en Nouvelle-Galles du Sud, augmentant ainsi pour bon nombre d'entre elles leur probabilité de déclin, voire d'extinction. C'est ce qu'affirmaient sur le site The Conversation les scientifiques donc Philippe Grandcola, systématicien et directeur de recherche au CNRS, et Jean-Loup Justine, professeur de parasitologie au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, dans leur publication, les deux chercheurs français estimaient que le nombre d'animaux ayant péri dans les flammes, donc établi récemment à plus d'un milliard par un éminent biologiste australien, Chris Dickman, eh bien, il devait être considérablement revu à la hausse. Ce qu'ils écrivent, c'est qu'en tenant compte de toute cette biodiversité invisible, le comptage des animaux morts dans les feux de forêt australiens doit ainsi être très largement réévalué. Donc c'est au total au moins 1 million de milliards d'animaux qui ont péri. Et 1 million de milliards d'animaux, hein, ça fait 6 zéros en plus à un chiffre qui était déjà bien, bien trop long. Donc là, pour l'instant, il est trop tôt pour se rendre compte, quelque part, au quotidien, pour les gens qui vivent en Australie ou même à l'échelle de la planète, des conséquences. Mais on peut déjà les estimer et c'est dramatique.
L'autre question qu'on peut se poser par rapport à ces incendies en Australie, c'est est-ce qu'on doit s'attendre à ce type d'épisode dramatique plus souvent du fait du réchauffement climatique ?
Il paraît que oui. Après,
et bien sûr, en fait, il y a des chercheurs du l'Imperial College London, on en parle souvent aussi de ce grand institut de recherche. Ils ont, les chercheurs, analysé 57 études scientifiques publiées depuis le 5e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, paru il y a 6 ans. La conclusion ne laisse pas de place au doute. Toutes ces études montrent un lien entre le réchauffement climatique et le risque de voir survenir des feux de forêt plus fréquents et plus intenses, le résultat d'une combinaison de phénomènes défavorables, des températures élevées, une faible humidité, des faibles précipitations, souvent des vents violents. C'est un peu ce qui s'est passé en Australie. Et entre 1979 et 2013, les saisons des incendies se sont globalement allongées à l'échelle mondiale. Des situations extrêmes comme celle qu'a donc connue l'Australie vont se reproduire désormais à chaque fois que des fluctuations naturelles à grande échelle combineront leurs effets avec ceux du réchauffement climatique. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Selon les chercheurs, il y a deux possibilités qui s'offrent désormais à nous. La première, c'est de mettre en œuvre des politiques de gestion des terres et des territoires cohérentes avec ce nouveau risque. Et en ce qui concerne l'Australie, il y avait eu un moment une controverse sur l'idée que peut-être les forêts australiennes n'avaient pas été, comment dirais-je, entretenues comme il leur est fallu et comme il l'est par exemple dans certaines forêts françaises par exemple, ce qui fait que on favorise aussi la propagation de ces incendies. Bon, ça c'est un débat à part. La deuxième possibilité, faut pas se leurrer, c'est de bien sûr limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, ce qui semble pas non plus simple à mettre en place. Bref, on a deux solutions qui sont inatteignables. Donc, il va falloir s'attendre à avoir des incendies comparables à ceux que vient de connaître l'Australie et des incendies qui vont se multiplier. Donc, ça va être notre quotidien.
C'est vrai, réchauffement climatique, on a tendance, c'est martelé dans les médias, c'est ce qu'on peut lire, à penser à chaque fois à la montée des eaux, qui clairement sera également un énorme problème. Mais on ne parle pas assez souvent des incendies. Il y a quand même de plus en plus de grandes phases, en effet, d'incendies meurtriers, pas seulement donc en Australie, même si là, c'était d'une ampleur sans précédent. C'est vrai qu'on ne se dit pas « Ah oui, parce que déjà, il y aura des parties qui vont devenir complètement immergées. En plus, sur les parties encore de terre où on pourra vivre, on aura des incendies. » Et aussi plein d'autres problématiques de déséquilibre entre la faune et la flore. Certainement des problèmes après pour se nourrir.
Et là, tu nous as dit tout à l'heure qu'on allait être presque 10 milliards bientôt.
Voilà, c'est
donc
ça.
Carole, tu ne fais pas d'efforts non plus. Enfin, tu nous donnes des informations alors que tu sais que très bien que sur Terre, on ne peut plus, là, au bout d'un moment. On parle de réchauffement climatique. Moi, je pense qu'il vaut mieux parler de dérèglement climatique, en fait. Parce que,
parce qu'il y a des réchauffements qui sont normaux à l'échelle
du cycle de
notre planète. Oui.
Et c'est un dérèglement qui est assez précipité, en fait. C'est la différence, elle est là. Il y a eu un réchauffement climatique, ça fait partie de notre Terre, sauf que là, c'est sur un laps de temps hyper court. Et donc, du coup, ce qui se passe en Australie est l'une des conséquences. Et ça se reproduira également. Voilà, on a bien plombé l'ambiance pour la fin de cette émission. Mais en tout cas,
on vous promet la semaine prochaine, on commencera sur une note plus légère.
On essaiera, mais voilà, c'est aussi ça la science et la technologie. C'est aussi le but de cette émission, c'est de nous sensibiliser également à ces sujets-là. Merci Carole de ta présence.
Merci Jean-Noël.
Aujourd'hui pour cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous retrouvez sur graphite.net si vous le souhaitez, notamment en récupérant les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Et on se retrouve samedi prochain. Je te retrouve samedi prochain.
Je suis toujours là, je reste.
Je reste.
Je n'ai plus la musique que j'avais à une époque.
Non, je l'ai plus maintenant, parce que sinon après ça devenait tellement habituel. Nous serons le 15 février et on fera encore le point sur l'actualité scientifique. Tu nous parleras de quoi? Un petit teasing?
Alors on va parler justement d'animaux avec un petit peu d'éthologie chez nos amis les vaches.
Ah, et moi je vous parlerai de ce grand jeu vidéo, le prisonnier quantique, développé par le CEA. Ça fait un buzz. Si tu aimes le game, eh bien...
je ne sais pas, je vais réfléchir pour la semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.